الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نواصل ما كنا قد توقفنا عنده من التعليق على حديث العرباض بن ساري رضي الله تعالى عنه الذي احتوى على هذه الكلمات الطيبات المباركات والوصايا الجامعة لنبينا عليه الصلاة والسلام. وما أحوجنا خاصة في هذه الأيام لمثل هذه الوصايا النافعة التي تعصمنا من الفتن التي تعصف بهذه الأمة والتي كما وصفها نبي هذه الأمة تموج موج البحر، أو كما وصفها كذلك أنها كقطع الليل المظلم. أسأله جل وعلا أن يجيرنا من الفتن كلها ظاهرها وباطنها. بعد وصيته صلى الله عليه وسلم بتقوى الله تبارك وتعالى ثم بالسمع والطاعة لولاة الأمر فينا، وبينا المقصود بهذه الطاعة والشرط الشرعي فيها وأهمية المحافظة على هذا الأمر في هذه الأمة، لأن الاجتماع والمحافظة على الجماعة مقصد من مقاصد الشرع العظيم أمر به ربنا تبارك وتعالى، فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أمر بها نبينا عليه الصلاة والسلام فقال: وكونوا عباد الله إخوانا. وقال: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. إي والله، الفرقة عذاب وسبب للعذاب، فتنة عظيمة تجعل الناس لا يأمنون فيها على أنفسهم ولا على أعراضهم ولا حتى على دينهم. ولنا في تلك البلاد التي ذاقت من مرارات هذه الفتن، نسأل الله جل وعلا أن يعصم بلاد المسلمين كلها من هذه الشرور. قال بعد ذلك: فإنه، أي نبينا عليه الصلاة والسلام، فإنه من يعش منكم، من يعش منكم أي من تطول حياته بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد هذا القرن الذي هو خير القرون، وهذا مصداقا لقول نبينا عليه الصلاة والسلام: ما من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. ما من عام إلا والشر يزيد والفتن تكثر حتى تأتي الفتنة العظيمة، خروج المسيح الدجال، وهي من العلامات الكبرى لقيام الساعة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، nous poursuivons l'étude du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après nous avoir enjoint et recommandé la piété, la crainte d'Allah, d'écouter et d'obéir au gouverneur, ce dans quoi il y a tout le bien. Et cette écoute et cette obéissance du gouverneur est conditionnée par ce que nous avons cité précédemment et amène et apporte tout le bien à cette communauté. Ça préserve son union et l'union des musulmans est un but. C'est un but dans la législation d'Allah, une chose qu'il nous a ordonnée, comme il nous le dit dans sa parole, selon la traduction. Et cramponnez-vous tous au câble d'Allah, tous ensemble, et ne vous divisez pas. Et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous alors que vous étiez ennemis. C'est lui qui a uni entre vos cœurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, et soyez, ô serviteurs d'Allah, tous des frères. Il nous dit également, l'union, c'est une miséricorde. Et la division est un châtiment. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit donc, certes, celui qui parmi vous vivra. Le shir explique et dit, c'est-à-dire qui vivra longtemps après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui pourra atteindre le siècle suivant, qui sortira du meilleur des siècles, le siècle dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt le siècle, le meilleur des siècles. Par contre, après cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas une année qui viendra sans qu'elle ne soit pire que la précédente, jusqu'à ce que vous rencontriez votre Seigneur. Les troubles, le mal augmentera et se répandra jusqu'à ce que vienne le pire, jusqu'à ce que vienne le plus grand trouble, la sortie du faux Messie.
إنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وفي هذا دليل على نبوة من نبوات نبينا عليه الصلاة والسلام، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر عن أمر غيبي، فوقع هذا الأمر كما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، وظهر الاختلاف في الأمة، ظهر الاختلاف في الأمة، وبدايته في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، اختلفوا فيما بينهم، ثم فتح الله عليهم، فاجتمعت بعد ذلك كلمتهم، وتآلفت قلوبهم، وعادوا كما كانوا جماعة واحدة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في صبطه الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما، إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يجمع به بين طائفتين من المسلمين عظيمتين. وجمع الله به بين طائفة علي وطائفة معاوية رضي الله تعالى عنهما، بعد ما أدى الاختلاف بينهم إلى حد التقاتل، ووقعت وقعة صفين، وقعة الجمل. والله جل وعلا يسر هذا الأمر وجمع الكلمة ولم الشمل بهذا السيد بسبط رسول الله وريحانته الحسن بن علي، إذ تنازل بالخلافة لمعاوية، فاجتمعت بعد ذلك الكلمة وعاد الصحابة إلى ما كانوا عليه. وهذا فيه دلالة على أن الاختلاف ليس بالأمر الممدوح، وليس ظاهرة صحية كما تدعيه بعض الطوائف، ويريدون أن يقرروا لهذا الأمر لأنهم لا يفرقون بين إرادة الله جل وعلا الكونية القدرية وبين إرادته الشرعية. الله تبارك وتعالى ذكر هذا في كتابه: ولا يزالون مختلفين إلا ما شاء الله، على أن الاختلاف ظاهرة صحية وعادي جدا أن يكون في الأمة، وجهلوا أن هذا ليس مقصودا والأمة ليست مأمورة به، إنما هذا واقع وأمر قدري كوني يقع في الناس والله جل وعلا لا يريده، كما أن الكفر والمعاصي شيء واقع في الناس والله لا يريده. إذن وجود المعاصي والكفر نقول أن هذا ظاهرة صحية؟ أبدا، كلا، هذا من جهلهم. الاختلاف ظاهرة مرضية يوهن هذه الأمة ويضعفها، والله تبارك وتعالى إنما أمرنا بضده، نهانا عنه وأمرنا بضده، وهذا هو الواجب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: الجماعة رحمة والفرقة عذاب.
Donc celui qui parmi vous vivra après moi verra de nombreuses divergences. Il y a une preuve dans ce hadith et dans cette partie du hadith de la véracité de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, du fait qu'il nous est informé d'une chose qui relève du domaine de l'invisible. Et cette chose s'est produite comme il nous l'avait cité. C'est qu'on a vu qu'il y a eu la division, l'apparition de la division dans la communauté. Et ceci a commencé à l'époque d'une partie des compagnons. Puis Allah leur a accordé la réussite, ils ont pu s'unir. Ils ont uni leurs paroles tout comme les cœurs se sont unis. Et ils sont revenus ce sur quoi ils étaient, l'union. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit auparavant concernant son petit-fils Al-Hassan, fils de Ali: certes, mon fils que vous voyez ici sera le meilleur. Son fils, c'est-à-dire son petit-fils. Et j'espère que par lui, Allah va unir entre deux grandes nations parmi les musulmans, deux grands groupes parmi les musulmans. Le cheikh nous explique, dit que c'est le groupe de Ali radiallahu anhu et le groupe de Muawiya radiallahu anhu. Après la divergence qu'il y a eu, au point que cela a amené à un combat entre plusieurs groupes, Allah subhanahu wa ta'ala les a unis. Lorsque le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé le califat à Muawiya radiallahu anhu, par cette action, Allah subhanahu wa ta'ala a réuni entre les musulmans. On tire également de cette partie du hadith que la divergence n'est pas une chose louable, bien au contraire, et que ceci n'est pas un signe de bonne santé dans la communauté, contrairement à ce qu'ont prétendu certaines personnes et certains groupes, c'est-à-dire égarés. Ils ont même voulu faire reconnaître aux gens que cette division, à partir du moment où elle relevait de la volonté universelle d'Allah, que c'était une chose voulue. Et bien au contraire, c'est une chose qui a été décrétée, mais qui n'a pas été légiférée, selon le sens de ce qu'a dit Cheikh Hafidhahullah Ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, selon la traduction: et il ne cesse de diverger. Et il ne cesse de diverger, sauf ceux à qui Allah a fait miséricorde. Sauf ceux à qui votre Seigneur a fait miséricorde. Donc la division n'est pas un signe de bien ni d'une miséricorde. Allah nous a interdit la division et nous a ordonné son contraire, c'est-à-dire l'union. Tout comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'union est une miséricorde et la division est un châtiment. La division affaiblit la communauté. La division amène le mal à la communauté.
هذا الاختلاف الذي هو بهذه الصورة وبهذه المنزلة في دين الله تبارك وتعالى وأنه غير محبوب عند الله عز وجل النجاة منه والعصمة من شره كما أخبر بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام بعد ذلك في هذا الحديث بقوله فعليكم بسنتي وكأنه أراد أن يقول إن هذا الاختلاف وهذا الشر العظيم إذا أردتم أن تنأوا عنه وأن تجنبوا أنفسكم شره فعليكم بهذا الأمر لأن النبي في مقام الوصية في مقام العهد للصحابة يعهد إليهم بهذه الأمور التي فيها خيرهم وصلاحهم وسعادتهم ونجاتهم يوم القيامة قال النجاة من هذا فعليكم بسنتي والسنة حقا سفينة النجاة وسبيل الخلاص من جميع الشرور والفتن لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا يقربنا إلى ربنا تبارك وتعالى فيه خيرنا وصلاحنا ونجاتنا إلا ودلنا عليه وأمرنا به وحثنا عليه ورغبنا فيه وبين لنا منافعه وآثاره الطيبة وهذا بالنسبة لكل خير خيري الدنيا والآخرة السنة نجاة من هذا كله قال فعليكم بسنتي والمقصود بالسنة هنا الطريقة والسبيل والمنهج لأن السنة إذا أطلقت لها معان عدة في الشرع عند الفقهاء السنة لها معنى وهي ما يقابل الواجب ما لا يعاقب على تركه ما يعاقب على تركها أو ما لا يعاقب على تركها الواجب يعاقب على تركه أما السنة فلا في اصطلاح الأصوليين السنة المقصود بها ما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام المقصود بالسنة الأصل في التشريع والمصدر التشريعي عند المحدثين السنة المقصود بها ما جاء من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وأحواله وشمائله كل هذا من السنة السنة في عند علماء العقيدة المقصود بها عقيدة الفرقة الناجية ولهذا تجدون كتب في العقيدة تسمى كتاب السنة في العقيدة كتاب السنة في العقيدة والسنة في هذا الباب أو في هذا الحديث المقصود بها الهدي والطريق النبوي ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بها فعليكم بهدي وعليكم بطريقتي في كل شيء في كل شيء في العبادات في المعاملات في الأخلاق في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل شيء نعم
Et si la division de laquelle vous venez d'entendre la gravité et qui n'est pas aimée auprès d'Allah a une telle place, comment s'en préserver? Comment s'en prémunir? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: cramponnez-vous à ma sunna. C'est comme s'il avait voulu nous dire: voyez-vous cette divergence? Voyez-vous cette chose aussi grave? Quand vous voulez vous en sortir, vous en préserver, il vous faut revenir à ma sunna. Il vous faut obéir à cet ordre. Et ici, il est en train de faire des recommandations. C'est une chose qu'il va laisser pour ses compagnons après lui. Comment en être préservé? Comment être préservé des troubles le jour de la résurrection? Quelle est la cause? Se cramponner à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc réellement, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est semblable à un bateau qui nous amène, qui nous apporte le salut, qui nous préserve de tout le mal et de tous les troubles. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas laissé un bien sans nous y inviter, sans nous l'embellir et nous appeler à le mettre en pratique, en nous montrant le mérite et tout le bien qui en découlera. La sunna est un bien et renferme tout le bien. La sunna, c'est la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le chemin sur lequel il était. Ce mot-là, est sunna, la tradition, lorsqu'on le cite de manière absolue, il peut être compris de différentes manières. Chez les savants de la jurisprudence, c'est ce qui vient en face des choses obligatoires. C'est l'inverse des choses obligatoires, c'est-à-dire, as-sunnah, les choses recommandées. La chose que lorsque tu la délaisses, tu ne mériteras pas et tu ne seras pas châtié. Alors que chez les savants du usul, c'est une base de législation. Alors que chez les savants du hadith, c'est tout ce qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme parole, comme action, comme état, comme approbation, que ce soit la description ou ses nobles caractères. Tout cela entre dans la sunna, dans la terminologie des savants du hadith. Quant aux savants de la croyance, lorsqu'ils citent as-sunna, c'est la croyance sur laquelle était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que tu trouves comme titre de livre dans la croyance as-sunna. Et ici, ce qui est voulu par la sunna dans ce hadith, c'est la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela qu'il nous l'a ordonné, que ce soit ses comportements, que ce soit sa voie, recommander le bien, proscrire le mal, tout cela entre dans le terme as-sunna.
الكبار. ولهذا قال الإمام مالك عليه رحمة الله مقولته الشهيرة: السنة سفينة نوح عليه السلام، من ركبها فقد نجا، من ركبها فقد نجا، عصم نفسه من المهالك كلها، من الضلال ومن الفتن. ثم قال بعد ذلك، وفي هذا إشارة للتمسك بهدي سلف هذه الأمة، وأن القرآن والسنة لا يفهمان إلا بفهمهما، إلا بفهمهم أي السلف، وفهمهم مقدم على فهم غيرهم، لأنهم أعلم الناس بحقائقه، وأعلم الناس باللغة التي أنزل بها القرآن ونطق بها نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذا في قوله بعد ذلك: وسنتي الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وسنة الخلفاء أي طريقة الخلفاء، وطريقتهم تبع لطريقة نبيهم عليه الصلاة والسلام. تبع لطريقة نبيهم عليه الصلاة والسلام في أمر لم ترد فيه سنة للنبي عليه الصلاة والسلام، لا قول ولا فعل، كما قال النبي لتلك المرأة لما سألته ثم قالت له بعد ذلك وهي تريد أن تأتيه العام القادم، قالت إن لم أجدك يا رسول الله، قال لها تجدين أبا بكر، يعني أحال على الذي يأتي من بعده. ولهذا لقب أبو بكر بخليفة رسول الله كما لقب عمر بأمير المؤمنين. أبو بكر كان يلقب بخليفة رسول الله، وبعده جاء لقب أمير المؤمنين عمر ومن جاء بعده عثمان وعلي وغيرهم من أمراء هذه الأمة، يعني من أصحاب رسول الله ومن جاء بعدهم. الخليفة الذي يأتي من بعده ويخلفه في أمره، وأول خليفة هو أبو بكر، والصحابة اختاروا أبا بكر من دون سائرهم للإشارات النبوية التي فهموا منها أن النبي عليه الصلاة والسلام اختاره لهذا الأمر. اجتمع الصحابة بعد وفاة رسول الله، وفاة رسول الله كانت أمرا جللا عظيما. واجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، اجتمع الأنصار، الأنصار ظنوا أن الأمر يرجع إليهم لأنهم هم أهل البلد وأهل الديار، والصحابة إنما هاجروا إليهم فآووهم واستضافوهم، فظنوا أن الأمر طبيعي أن يكون أو أن تكون الإمارة فيهم. فلما سمع بذلك شيوخ الصحابة وعلى رأسهم أبو بكر وعمر ذهبوا إليهم فأعلموهم أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمارة في قريش، يعني الأمير شرط من شروطه أن يكون قرشي. ثم عمر باختصار قال للصحابة النبي صلى الله عليه وسلم اختاره لنا واستخلفه علينا في أمر ديننا، ألا نرضاه أن يكون خليفة له في أمر دنيانا؟ ثم بايع عمر وبايع الناس من بعده، وبايع الناس من بعده جميعا، حتى علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه خلافا لما يفتريه الرافضة من امتناعه عن المبايعة. فهذا هو الخليفة الأول رضي الله تعالى عنه. ثم من بعده؟ والخلافة الراشدة تدوم في هذه الأمة 30 سنة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، سماها خلافة راشدة وقال تدوم 30 سنة، ووقع الأمر كما أخبر، فدامت الخلافة الراشدة بعد 6 أشهر التي تولاها الحسن بن علي 30 سنة بالتمام والكمال كما أخبر بذلك الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. نعم.
C'est pour cela que l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, a dit sa parole célèbre. La tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam est semblable à l'arche de Noé. Celui qui y monte sera sauvé. En effet, c'est une préservation contre les troubles, contre le mal, contre l'égarement. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit une parole qui nous a fait comprendre l'importance de revenir à la voie des pieux prédécesseurs, c'est-à-dire les compagnons et ceux qui sont venus après eux. Il y a un signe dans ce hadith qui nous montre que nous devons comprendre le Coran et la Sunna qu'à la manière ou bien à la manière des pieux prédécesseurs, car ce sont eux qui avaient la meilleure des compréhensions, le plus de science, qui étaient le plus en conformité avec la réalité des faits, que ce soit dans la langue arabe, car le Coran a été révélé dans cette langue et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a parlé, ou que ce soit dans le reste. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Cramponnez-vous et cramponnez-vous à la tradition des califes droits et bien guidés qui viendront après moi. » As-Sunnah, encore une fois ici, c'est la tradition. Donc la tradition des compagnons, Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali. Et cette tradition est en réalité un suivi de la tradition prophétique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si on ne trouve pas dans ses paroles ou ses actions un agissement ou une parole, et que les compagnons, calife bien guidé Abu Bakr, Omar, Uthman ou Ali, apportent une chose, on doit la suivre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la visite d'une femme qui l'a questionnée. Par la suite, elle a voulu revenir l'année suivante. Elle lui a dit, et si je ne te trouve pas au messager d'Allah? Il lui a dit, sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, tu te rendras auprès d'Abu Bakr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a orienté cette femme vers celui qui allait prendre la responsabilité et le califat après lui, c'est-à-dire Abu Bakr. Il a donc été appelé par ce surnom, Khalifatu Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, le successeur du messager d'Allah. Quant à Omar radiallahu anhu, lui a été appelé et surnommé Amirul Mu'mini, le responsable des croyants. Et il fut dit de même pour ceux qui sont venus après Omar radiallahu anhu. Les compagnons, suite à cette grande épreuve qui a touché la communauté, la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, se sont tous mis d'accord pour choisir Abu Bakr en tant que calife. Les Ansar se sont réunis sur une place, Saqifati Bani Salima. Et ils ont tous, Saqifatu Bani Salima.
Saïda. Saqifa, c'est une terrasse.
Aïwa.
C'est tout.
Tadartu al-tarjama al-kamila. Donc le shir nous traduit cela en disant que c'est une terrasse. Donc ils se sont réunis, c'est-à-dire les Ansar, les habitants de la ville, car ils ont cru qu'en tant que résidents du pays, à eux revenait cette responsabilité. Car les Muhajiroun, les autres parmi les compagnons, étaient venus vers eux. Ils ont donc pensé que cette responsabilité leur revenait. Mais lorsque les grands parmi les compagnons, comme Abu Bakr, comme Omar, ont eu connaissance de cela, ils sont partis les trouver. Et le Shir nous a raconté de manière résumée comment est-ce qu'ils ont choisi Abu Bakr. Omar leur a parlé en leur disant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a agréé pour nous Abu Bakr dans nos affaires religieuses. Comment est-ce qu'on pourrait ne pas l'agréer pour nos affaires mondaines? Il lui a donc prêté allégeance et l'ensemble des compagnons en ont fait de même. Même Ali, radiallahu anhu, contrairement à ce qu'ont voulu prétendre al-Rafida comme mensonge. Et ce calife, ce califat, c'est-à-dire Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali, a duré, le califat de ces quatre personnes, radiallahu anhu, a duré en tout et pour tout 30 ans si on ajoute les 6 mois du petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-Hassan. Et de cela, on voit la véracité
de la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car dans un hadith, il avait informé de cette chose en disant que le califat prophétique durera 30 ans. Et lorsqu'on compte en ajoutant les 6 mois du califat de l'Hassan, fils de Ali radiallahu anhuma, on trouve en tout et pour tout 30 ans.
ثم قال عليه الصلاة والسلام واصفا هؤلاء الخلفاء بوصفين عظيمين، هذان الوصفان يصح أن نقول أنهما شرطان في من بوأه الله تبارك وتعالى مقام القدوة في هذه الأمة، الذي يكون قدوة في الخير في هذه الأمة ينبغي أن يكون على هذين الشرطين، أن يكون على رشاد وعلى هداية، لأنه قال وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. والرشاد في اللغة يطلق على عدة معاني، هذه المعاني كما قال ابن فارس في مقاييس اللغة يرجع ويدل على استقامة الطريق، على استقامة الطريق. ولهذا الذي يبلغ السن الذي يؤهله لحسن التصرف يسمونه سن الرشد، سن الرشد بمعنى أنه أصبح راشدا يحسن التصرف غير طائش. وفي الشرع الرشاد ضد الغي، الرشاد ضد الغي، والغي هو الضلال والخيبة. فيقال فلان غوي وضده فلان رشيد، ولهذا جاء ذكر هذا في الكتاب والسنة من مثل قول الله تبارك وتعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وفي قوله تبارك وتعالى وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، هؤلاء الكفار، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، عياذا بالله تبارك وتعالى. وهذا وصف وحال الكثير من المسلمين في هذا الزمان مع الأسف الشديد، يتركون سبيل الرشاد الواضح البين ويتبعون سبل الغواية، عياذا بالله تبارك وتعالى. يفتنون بالدنيا ويفتنون بأهوائهم ويفتنون بالمضلين الذين يصدونهم عن سبيل الله تبارك وتعالى. وجاء في الحديث كذلك في خطبة من خطب النبي عليه الصلاة والسلام قوله من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى حتى يفيء إلى أمر الله. فجمع الحديث بين الرشد والغي، هذا معناه في الخير، والثاني معناه في الشر، وهو بمعنى الضلال والخيبة، عياذا بالله تبارك وتعالى. قال بعد ذلك تفضل.
Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit les califes par deux caractéristiques. Ces deux caractéristiques peuvent être considérées comme deux conditions pour être un guide et un exemple pour la communauté. La première caractéristique, la droiture. La deuxième caractéristique, la guidée. Voici les deux grandes caractéristiques par lesquelles ont été décrits les califes bien guidés. Ibn Faris, rahimahullah ta'ala, qui est un linguiste, nous dit que le sens du mot ar-rashad dans la langue arabe revient à plusieurs sens, mais de manière générale, on peut dire que c'est le fait d'emprunter le chemin de la droiture. C'est le fait d'emprunter le chemin de la droiture. Et c'est pour cela qu'on dit communément que la personne qui a pris de l'âge a atteint l'âge de la droiture. Elle sait comment se comporter. Contrairement à celui qui est désordonné, qui ne sait pas gérer les situations.
Voilà. Voyons, non?
Chéri, elle a dit que c'est un voyou. Voyez. Shar'an, dans la législation, al-rashad, c'est le contraire de l'égarement. C'est le contraire de l'égarement et de la perte. Tu dis Fulan, Raoul, un tel s'est égaré ou est égaré. Et tu dis Fulan, Rachid, un tel est droit. Il observe le chemin de la droiture. Ces termes ont été cités dans le Coran ainsi que dans la Sunna. Dans le Coran, il y a plusieurs versets. À titre d'exemple, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit selon la traduction, nulle contrainte en religion. La voie de la droiture s'est distinguée de celle de l'égarement. Il nous dit également subhanahu wa ta'ala selon la traduction, et lorsqu'il voit, ou bien et si il voit le chemin de la droiture, il ne l'emprunte pas. Il nous dit ceci est le comportement des koufars. Et s'ils voient le chemin de l'égarement, ils l'empruntent. Et il nous dit malheureusement, de nos jours, beaucoup parmi les musulmans se comportent ainsi. C'est-à-dire, lorsqu'ils voient le chemin du bien, ils ne l'empruntent pas. Et lorsqu'ils voient le chemin du mal, ils l'empruntent. En suivant dans cela leur passion, ou en étant troublés par ce bas monde, et les prédicateurs qui appellent à l'égarement. Qu'Allah nous en prémunisse. Et dans le prêche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit qu'il a uni entre ces deux paroles. Il nous dit, celui qui obéit à Allah et son messager aura observé le chemin de la droiture. Quant à celui qui désobéit à Allah et au messager, aura observé le chemin de l'égarement.
قال الراشدين المهديين والمهديين أو المهديون هم الذين فتح الله تبارك وتعالى عليهم في هذا الأمر العظيم ألا وهو الهداية إلى صراطه المستقيم والهداية تطلق ويراد بها في اللغة الإرشاد والتوجيه أو تطلق ويراد بها معنيان معنى الإرشاد والتوجيه ومعنى التوفيق ومعنى التوفيق ولهذا تجدون هذه اللفظة في القرآن بين نفي وإثبات يعني تأتي منفية في حق من جعلهم الله تبارك وتعالى هداة كالأنبياء وتأتي مثبتة الله تبارك وتعالى يقول لنبيه إنك لا تهدي من أحببت إنك لا تهدي من أحببت وفي آية أخرى يقول وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم فالنبي صلى الله عليه وسلم أثبت الله في حقه الهداية والهداية المثبتة هنا يقول أهل العلم هي هداية الإرشاد والدلالة على الطريق المستقيم، وهذه وظيفة الأنبياء، والأنبياء هم سادات الهداة. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال في الآية الأخرى هاديا ومبشرا، يعني هاديا إلى صراط الله بالدلالة عليه وإرشاد الناس إليه. فإن أطاعوك واتبعوك في هذا هدوا إلى الصراط المستقيم. والهداية هنا هداية التوفيق، يعني هداهم الله تبارك وتعالى هداية التوفيق. هذه الهداية التي هي من أعظم مطالبنا ومن أشد ما نسأل بها ربنا تبارك وتعالى. ففي كل ركعة من ركعات صلاتنا ندعو الله عز وجل أن يهدينا صراطه المستقيم. نعم. يأذن.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
أيه واصل واصل، لم يبقى إلا القليل نحاول إتمامه.
Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit les bien guidés, al-mahdiyoun, ce sont ceux à qui Allah a accordé la réussite dans ce but ô combien recherché. La guider sur le chemin droit, sur le chemin d'Allah, lorsque c'est cité de manière générale ou bien lorsque c'est cité de manière absolue, ça peut avoir l'un de ces deux sens. Le premier, la voie droite et l'orientation sur et vers le bon chemin. Le deuxième sens, c'est la réussite. Donc le mot guider est cité dans les textes, et tantôt on entend par cela la guider dans le sens de montrer le bon chemin, d'orienter vers le bon chemin. Le deuxième sens, c'est at-tawfiq, c'est-à-dire la réussite, qu'on nous permette d'être sur ce bon chemin. C'est pour cela que dans les textes religieux, on trouve que dans certains hadiths, dans certains textes, que ce soit du Coran, dans le Coran, le Shira c'est cela pour exemple, par moments on affirme la guidée pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans d'autres versets, on réfute cela et on l'infirme. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, selon la traduction, « Certes, tu ne guides pas qui tu aimes. » Certes, tu ne guides pas qui tu aimes. Et dans un autre verset, on trouve, selon la traduction, « et certes tu guides vers le chemin droit, le chemin d'Allah. Comment il y a entre ces textes? Le premier texte, le sens, certes tu ne guides pas qui tu aimes, c'est-à-dire tu n'accordes pas la réussite. Quant au deuxième texte, certes tu guides sur le droit chemin, le chemin d'Allah, c'est-à-dire tu orientes, tu montres le bon chemin. Donc Al-Hidayah, la guidée, a été affirmée et a été infirmée. Les savants ont dit lorsque cela est affirmé, c'est-à-dire dans le sens de montrer le bon chemin. Et quand cela est infirmé, c'est-à-dire dans le sens d'accorder la réussite. Et parmi les caractéristiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'Allah nous enseigne dans le Coran, c'est qu'il a été envoyé en tant que prédicateur, en tant qu'annonciateur de bonnes nouvelles, en tant qu'avertisseur et également en tant que guide. Également en tant que guide. C'est donc un guide sallallahu alayhi wa sallam. Il oriente et guide les gens vers le bien. Et ceux qui obéiront au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont ceux qui auront emprunté le bon chemin et seront guidés. Al-Hidayah, la guider, mes frères, c'est la plus grande chose que l'on recherche. Et c'est pour cela qu'on la demande à Allah subhanahu wa ta'ala dans chacune de nos unités de prière. On lui demande de nous guider sur le chemin droit.
ثم قال عليه الصلاة والسلام في بيان الحرص على التمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده قال عضوا عليها بالنواجذ النواجذ أطراف الأسنان إلى درجة حتى لا تنفلت منك كما أن العظم بنواجذه على الشيء لا يفلت منه كذلك أنت تمسك بسنة نبيك وبسنة الخلفاء الراشدين المهديين خاصة في مثل هذا الزمان تمسكا قويا شديدا حتى لا تفلت منك هذه السنة لأنها إذا فلتت منك ضعت وخبت وخسرت كما قال الإمام مالك في تمثيل السنة بسفينة نوح عليه السلام من ركبها فقد نجا ومن لم يركبها هلك غرق في الفتن فتن الشهوات والشبهات ثم في مقابل هذا أمرنا بما يجب أن نتمسك به وبالكيفية التي نتمسك به نهانا في مقابل ذلك عما يضاد هذه السنة يضاد هذه السنة هذه البدع هذه المحدثات ولهذا حذر من كل محدثة لأن قاعدة يذكرها أهل العلم ما أحدثت سنة إلا أميتت بدعة لأنه ما أحيت سنة إلا أميتت بدعة كذلك فما أحيت بدعة إلا أميتت سنة نسأل الله جل وعلا العفو والعافية أمر البدع والمحدثات في دين الله عظيم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد يقول النبي عليه الصلاة والسلام مردود على أصحابه ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يركز على هذا الأمر ويكرره ويعيده على مسامع أصحابه في كل خطبه وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وزاد في رواية النسائي وكل ضلالة في النار والمحدث هو الشيء الذي لم يكن من قبل فاخترعه الناس ويعرفها الأصولي الإمام الشاطبي عليه رحمة الله بأنها طريقة البدعة طريقة في الشرع مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية وزاد فيها بعض العلماء المقصود فيها التعمق في الدين، طريقة مخترعة لم تكن، لأن الطريقة المتبعة هي الطريقة المرضية، هي الطريقة النبوية. الذي يأتي بطريقة في أي أمر من الأمور وفي كل في أي شأن من الشؤون نقول أحدث في دين الله. والذي يحدث في دين الله يتحمل وزر ما أحدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكل ضلالة في النار. ووزر أو أوزار من تبعه عليها إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة. الذي يحدث كأنه يدعي أنه على طريقة هي أهدى من طريقة نبينا عليه الصلاة والسلام. ولهذا عبد الله بن مسعود لما جاءه ذلك الصحابي يخبره أن أناس في المسجد يمسكون الحصى ويقول أحدهم كبروا، ويكبرون ويعدون التكبير بالحصى، ما كان هذا في الزمن الأول قبل سنوات، ما فعل هذا رسول الله ولا خيرة أصحابه. فذهب ابن مسعود إليهم مسرعا قال: أنتم على طريقة يعني استفهام إنكاري ينكر عليهم، أنتم على طريقة هي أهدى من طريقة محمد ونبي الله، ثيابه لم تبلى وآنيته لم تكسر، يعني عهدنا به قريب، تحدثون في دين الله. ولهذا الصحابة كانوا يعظمون هذا الأمر، وهذا من دعوة الدعاة الربانيين أنهم يحذرون من البدع والمحدثات، لأنها شر ولأنها ضلالة. وكما قال الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى: من أحدث في الإسلام بدعة يراها حسنة فكأنما قال إن محمدا قد خان الرسالة، نعوذ بالله. الذي يحدث في الإسلام بدعة ويراها أنها حسنة، لأن الناس يستحسنون هذه الأمور بغض النظر عن النيات، لأننا لا ننظر إلى نيات الناس، وقد يكون غالب هؤلاء أصحاب نيات حسنة ويريدون الخير، ولكن كم من مريد للخير لا يدركه، لا يدركه لأنه أخطأ طريقه وسبيله، أخطأ طريقه وسبيله. فهذه هي وصية نبينا التي عهدها إلى أصحابه وإلى الأمة من بعدهم إلى قيام الساعة: تقوى الله تبارك وتعالى، والسمع والطاعة حفاظا على جماعة المسلمين. وإن تأمر علينا عبد، وإن كان هذا الأمير عبد، لأن هذا الأمر لا نفعله لأجله، نفعله إرضاء لربنا وطاعة لمولانا وحفاظا على أمة نبينا عليه الصلاة والسلام. السمع والطاعة والتمسك بالسنة التي هي النجاة، والتمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه هي الدعوة السلفية في الحقيقة. الدعوة السلفية هذه هي أصول أصولها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للعمل بسنة نبينا عليه الصلاة والسلام واتباع هديه وهدي أصحابه. نكتفي بهذا القدر، ونسأل ربنا ومولانا أن يمن علينا بكرمه وفضله، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يهدينا سبيل الرشاد وأن يهدي بنا وأن يجعلنا هداة مهديين إنه جواد كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب والله تبارك وتعالى أعلم.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après nous avoir appelés à nous cramponner à sa tradition ainsi qu'à la tradition des califs bien guidés, il nous met en garde contre le contraire. Ou plutôt, il nous décrit avec quelle ferveur et avec quelle motivation nous devons nous cramponner à sa sunna, en nous disant « Mordez dedans avec vos molaires ». Le shir nous dit « Nawajid, ce sont les dents du fond ». Naam, ce sont les molaires, ou bien les molaires et les prémolaires. Et ici, on nous montre qu'il nous faut nous cramponner de la manière la plus forte, comme lorsque quelqu'un s'accroche à une chose et il ne veut pas qu'elle lui glisse des mains, qu'elle lui échappe. De la même façon, tu dois t'accrocher à la sunna afin qu'elle ne t'échappe pas. Car si la sunna t'échappe, tu vas perdre et tu vas périr. Comme nous l'a dit l'imam Malik rahimahullah ta'ala lorsqu'il nous a décrit la sunna et sa place en nous disant qu'elle est semblable à l'arche de Noé, au bateau de Noé. Celui qui y monte sera préservé et celui qui le délaisse périra. Donc il nous faut nous accrocher à la sunna de toutes nos forces. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit le contraire, c'est-à-dire l'innovation dans la religion d'Allah, le fait d'apporter des nouveautés. Celui qui fait une chose par laquelle nous n'avons pas été précédés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aura amené ce qu'on appelle une bid'ah. Une bid'ah, c'est une nouveauté religieuse. Et les savants ont dit que personne ne fait revivre une sunna sans qu'il ne fasse par la même occasion mourir une innovation. Et personne ne fait revivre une innovation sans que par la même occasion il ne fasse mourir une sunna. Donc cette chose est très importante et très grave. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Quiconque apporte une nouveauté dans notre ordre, son action sera rejetée. » Son action sera rejetée. Et très souvent il répétait cette recommandation. Dans tous ses prêches, il disait « Et prenez garde aux nouveautés, car toute nouveauté est innovation et toute innovation est égarement. » Et dans une version du hadith, et tout égarement mène en enfer. L'imam al-Shatibi, rahimahullah ta'ala, définit l'innovation en disant que c'est un chemin emprunté pour la religion. C'est un chemin que l'on se fraye dans la religion d'Allah alors qu'il a été innové. Donc une personne emprunte un chemin et l'affilie à la religion en sachant que ce chemin n'en fait pas partie. C'est une chose innovée et nouvelle. Mais cette chose innovée et nouvelle ressemble au chemin de la législation musulmane. Certains savants ont ajouté à cette parole en disant ce qui est voulu, c'est le fait d'exagérer et de rentrer trop en profondeur dans la religion. Le fait de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, voici ce qu'il y a de louable. Quant au fait d'innover sur ses paroles ou ses actions et d'ajouter à sa voix, ça n'est qu'égarement et cela mène en enfer. Celui qui innove dans la religion d'Allah aura à porter son fardeau et à porter le fardeau et les péchés de tous ceux qui l'auront suivi dans cette innovation jusqu'au jour de la résurrection. Et lorsque un compagnon lorsque Abu Musa al-Ash'ari radiallahu anhu a vu dans une mosquée des gens faire des innovations, l'un d'entre eux disait dites 100 fois Allahu Akbar, et il y avait des gens qui répétaient après lui Allahu Akbar en comptant avec des pierres. Il est parti trouver Abdullah ibn Mas'ud et lui a dit ce qu'il avait vu. Abdullah ibn Mas'ud s'est empressé de se rendre dans cette mosquée pour blâmer ce groupe. Il leur a dit, soit vous avez emprunté une meilleure voie que la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit vous êtes en train de vous égarer. Voici ces vêtements qui ne sont pas encore usé. Voici ces vêtements qui ne sont pas encore usés. Et sa vaisselle qui n'est pas encore cassée. Et vous êtes déjà en train d'innover dans la religion. Ils lui ont répondu, nous n'avons voulu que le bien. Et le Cheikh nous a montré qu'ici, l'innovateur peut avoir une bonne intention, mais ceci ne nous regarde pas. On ne regarde pas son intention. Son action, si elle n'est pas en conformité avec la sunna, c'est une innovation. Et combien de gens veulent le bien sans jamais l'atteindre? Et l'imam Malik rahimahullah ta'ala a dit, celui qui apporte une nouveauté dans l'islam, lui prétend qu'elle est bonne, il aura accusé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'avoir trahi le message. Donc on ne regarde pas l'intention de ces gens-là. Même s'ils ont voulu le bien, à partir du moment où ça n'est pas en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne l'accepte pas. Voici mes chers frères les recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La crainte d'Allah, écoutez au bureau gouverneur afin d'unir le groupe des musulmans, même si c'est un esclave. Même si c'est un esclave, pourquoi cela? Car on ne fait pas ça pour lui, pour le gouverneur, on fait ça pour Allah, en signe d'obéissance pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour préserver le bien pour cette communauté. Ensuite, la recommandation de suivre la sunna et la voie des califes, bien guidée, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que la sunna des califes, droit et bien guidée. Et en réalité, ce prêche, c'est le prêche de ceux qui suivent la voie des pieux prédécesseurs. C'est le prêche de ceux qui suivent la voie des pieux prédécesseurs. Voici ses fondements, les fondements de cette voie, et voici ses bases. Et pour finir, nous demandons à Allah de nous accorder la réussite et qu'il nous permette de suivre la voie du prophète et des compagnons. Wa sallallahumma barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa jazakumullahu khayran wa barakallahu fikum.
Shukran barak akhi Ibrahim. وقبل أن نقوم لصلاتنا وقد ختمنا حديثنا بما أمرنا به نبينا عليه الصلاة والسلام والحديث عن الهداية يعني نزف هذه البشرى لإخواننا ونستقبل أخا جديدا في ديننا يعلن إسلامه بحضرة إخوانه نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياه على الحق وأن يميتنا على الإسلام أمر أول أمر ثاني أراد بعض إخوانكم أن يقطعوا دابر فتنة وما أكثر الفتن في هذه الأيام تنسب إلي وأنا من أكثر الناس بغضا لمثل هذه الفتن ومحاربة لها بما أوتيت من قوة في الحجة والبيان هذا حسبنا وهي الطعن في الآخرين من غير حجة ولا دليل ولا برهان وتتبع العورات والسقطات والتفتيش عن الأخطاء والإذاعة لها قبل مناصحة أصحابها ومتابعتهم فيها وهذا هدي نبينا عليه الصلاة والسلام خاصة ممن عرف فينا باتباع الجادة وعلى السنة ما هو بالأمر الهين أن يسقط وأن يتعامل معه بمثل هذه المعاملات السيئة يقول الأخ ينسب إليكم وهذا تتناقله مواقع التواصل الاجتماعي أنني أحذر من الشيخ عبد الهادي من مارسيليا وأنا أقول وقد قلتها سابقا أنا ما حذرت من هذا الأخ بل سئلت عنه قبل سنوات من إخوة من تونس فقلت لا أعرفه وهذه حقيقة لا أعرفه، وما أمرنا إلا أن نشهد بما نعلم، وما كنا للغيب حافظين. هذا كلامي في أخي، وهكذا ينبغي أن نسير مع الناس جميعا. الأصل أننا نذب عن إخواننا وندافع عنهم ونرد على من يسعى للفتن في هذا الباب، ويكون ردنا لله وحده لا شريك له، نخلص لربنا جل وعلا في الرد، لا يكون ردنا حتى يرضى عنا زيد أو عمر، أو ردنا حتى نسكت هذا الذي ندافع عنه كما أخبرنا عن بعض الناس، قال نرد على اللي يرد عليه باش يسكت علينا ويخطينا، نسأل الله العفو والعافية. يعني القضية ولا تصيد الآن، هذا يصيد فيها، هذا ليس من منهج نبينا عليه الصلاة والسلام. لعله يجي الأخ ولا تترجم، ترجم باختصار
Il attire notre attention sur un point très important qui est en même temps très grave. C'est que certaines personnes entrent dans des sujets qui causent du trouble. Que ce soit le fait de critiquer leurs frères sans preuve, ou que ce soit de propager les fautes après avoir espionner sans auparavant avoir conseillé la personne, car ceci n'était pas la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc toutes ces choses-là, je fais partie de ceux qui les réprouvent avec sévérité et dureté. Une personne dit, il nous est parvenu ou bien il a été transmis, et les gens rapportent cela de vous, même sur internet, que vous avez mis en garde contre Cheikh Abdel Hadi de Marseille. Et le Cheikh répond que lorsque nous répondons à ce genre de questions, il nous faut être sincères. Il nous dit, je n'ai pas mis en garde contre lui, mais une fois j'ai été questionné par des frères de Tunisie. Ils m'ont questionné à ce sujet et j'ai répondu, selon la limite de mes connaissances, c'est-à-dire que je ne les connais pas. Je ne le connais pas. Et il ne m'est pas permis de témoigner d'une chose, si ce n'est avec science. Et c'est ce qui nous a été commandé dans les textes. La base, lorsque nous entendons parler en mal d'une personne de la sunna, c'est qu'on défend son honneur. On défend son honneur et on réfute le mal qui est dit la concernant. Et on ne laisse pas les troubles se propager. Et lorsqu'on fait cela, on le fait pour Allah, pas pour la personne en soi. Et nous devons d'être sincères, non pas à la recherche de l'agrément de telle personne ou de telle autre, et non pas pour la faire taire. On ne parle pas pour faire taire une autre personne ou pour avoir l'agrément d'une autre, mais on fait cela religieusement parlant, à la recherche de l'agrément d'Allah et sincèrement. Non.
Il y a une personne qui est venu pour entrer dans l'islam, pour se convertir, on l'invite à s'avancer.
Inch'Allah.
Il est venu pour se convertir devant ses frères, comme on l'a dit. Bienvenue.
Merci. Aurélien. Inch'Allah. Vous en parlez un petit peu de l'islam.
Oui. Mon père est déjà converti.
Masha'Allah.
Mon père est converti.
Alors, c'est lui la cause?
Un petit peu, et beaucoup les amis.
Les amis, musulmans.
Oui. Abdelmajid.
وندعيو لهم بظهر الغيب، حتى لو كان ما نعرفوهمش ندعيو لهم لأنهم يدعيوا غير المسلمين للإسلام، أما اللي المسلمين ومدينها عقابهم بالمعول هذا صلى الله لنا ولهم الهداية. ماذا لا
tu répètes après moi. Anna, j'ai une habitude de, pour ce qui concerne la question de changer les noms. Tu n'es pas obligé de changer ton nom, sauf si ce nom comprend des choses illicites en islam. Alors à ce moment-là, tu es obligé de le faire. Ton nom, hein, je ne sais pas, je ne suis pas connaisseur. Mais les frères, Inch'Allah Abdelmajid, va s'occuper de ça. D'ailleurs, si tu veux que te, ce sera moi qui te choisis un nom, tu m'appelles. De la part de Abdelmajid. D'accord. Tu répètes après moi. Pour toi. Tu dis,
Ash-hadu.
Allah ilaha.
Illallah.
Wa ash-hadu.
Anna.
Muhammadan. Rasulullah.
Rasulullah. Rasulullah.
Masha'Allah. La signification, je pense que Abdelmajid te l'a déjà dit.
Je vous remercie. ونشكر الشيخ على جهوده المباركة العظيمة التي ومن جهوده الحمد لله مفتاحا للخير، وقد أسلم أيضا في مدينة ليون أحد الإخوة الفرنسيين، فهذا مفتاح للخير نزل عندنا في هذه المنطقة، نسأل الله لا يحرمنا منه، فجزاه الله خيرا ونشكره على هذا الحضور.
بالنسبة للأسئلة أعتذر لإخواني، ولكن إن شاء الله أعد إخواني أنه تكون الإجابة خاصة لأسئلة إخوة بوردو كما وعدت إخوة ليون على إذاعتنا إن شاء الله، إذاعة التصفية والتربية وإذاعة الهدى، وهي إذاعتنا كذلك ما دام القائمون عليها إخواننا
من بوردو.
ما شاء الله يبارك فيهم وفي جهوده. نخصص وقت ونعلن الوقت وقت عن إجابة أسئلة بورد، وتستمعون إلى أسئلتكم عبر النت، وانتم ما شاء الله يعني التقنية لا تنقصكم. والله يبارك فينا وفيكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك. ونشكر نيابة عنكم أخوكم إبراهيم الذي جاء من باريس خصيصا ليترجم لكم، وقد استفدتم من ترجمته فجزاه الله خير الجزاء. لا منقوش.